Les Guyanas de Guyane française nomment 6 sortes de guêpes, ce qu'on appelle des ethnotaxons, donc qui ne correspondent pas forcément à des espèces scientifiques, et 3 espèces de fourmis, qui vont utiliser de manière crescendo, de la moins douloureuse à la plus douloureuse, en fonction notamment de l'intensité et de la durée de la douleur. Par exemple, des petites fourmis sont utilisées régulièrement, donc pas dans des cérémonies collectives, il peut y en avoir une dizaine, une quinzaine, sur différentes... Alors c'est pas ça non plus, je l'ai mise un peu à l'envers, voilà, c'est ça. Donc réutiliser régulièrement sur différentes parties du corps pour soulager la douleur, me disent les Wayanas, pour donner de la force ou pour enlever la paresse. Un homme qui voudrait mieux viser avec son arc ou son fusil se fera piquer par exemple sur les bras. C'était l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Là c'est le dos, mais c'est pas grave, on n'est pas loin. Une personne en mauvaise santé après un deuil, par exemple, demandera aussi à être piquée par les fourmis. Mais on peut piquer, par exemple, un nourrisson ou une femme enceinte pour donner plus de force à l'enfant. Alors, une grande partie de la communauté Wayana participe périodiquement, mais de manière beaucoup moins régulière, à la cérémonie de purification dite du maraqué, dont vous avez une photo qui est assez ancienne, je crois que c'est la première d'ailleurs, connue. Lors de laquelle les cadres en vannerie, qu'on appelle des kunana, représentant des animaux mythiques, donc là vous avez un cadre avec des guêpes, sont appliqués sur les corps. Lors du maraqué, les initiés utilisent des cadres différents, mais chacun possède son propre cadre, enfin chaque initié possède son propre cadre, qui sera augmenté d'espèces plus venimeuses la prochaine fois qui repasse le maraqué. La prochaine fois qu'un individu passera le maraqué, ils pourront utiliser les mêmes kunana, mais pas avec les mêmes guêpes. C'est-à-dire avec des guêpes, avec des guêpes qui font encore plus mal. Lors du maraqué, les initiés commencent l'application par la poitrine. Donc là, vous avez un exemple de kunana, des collections du Quai Branly. Alors déjà, c'est une grande fête qui s'organise précédemment, dans laquelle il y a des danses. Là, vous avez un exemple de cadre à poser sur le bras. Mais en général, ils commencent par la poitrine, puis le dos, les bras, le visage, et puis ils finissent par le bas. Voilà, et là, c'est les initiés qui sont reclus. C'est un rite de purification parce qu'il y a... pendant les danses, ils dansent beaucoup. Enfin, dans certaines régions, on utilise des fouets pour provoquer des segments. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on voit qu'il y a un renouvellement finalement. Enfin, qu'il y a une, on se purifie le corps, notamment à travers le jeûne. Là, ils commencent un jeûne, mais on se réinjecte également des substances dans le corps à travers les insectes. En gros. L'usage d'insectes comme de guêpes et de fourmis dans des cérémonies organisées, mais aussi dans des utilisations plus ordinaires, peut être mis en relation avec les théories de l'animisme dont on a déjà parlé, qui a été revisité par l'anthropologue Philippe Descola, et qui est la généralisation du constat, qui a été maintes fois fait, que les Amazoniens tendent à conférer des propriétés sociales et le statut de personne à l'ensemble des êtres animés, y compris les plus petits et les plus solitaires. Il faut en effet, pour comprendre les concepts amazoniens, dépasser, on l'a déjà dit, la dichotomie nature-culture, telle qu'on la connaît, entre les choses de l'âme et celles du corps, et voir dans ces systèmes animiques un mode d'identification, pour reprendre le mot de Philippe Descola, dans lequel les humains vont imputer aux non-humains, animaux, plantes ou esprits, une même essence, tout en leur reconnaissant une apparence, une forme différente. Et le point culminant de ces relations entre humains et non-humains, donc va être le changement d'apparence. L'homme, la plante, l'animal, en se métamorphosant, va modifier sa position d'observation, donc que sa physicalité originelle impose, et va s'attacher à coïncider avec la perspective sous laquelle il pense que l'autre s'envisage lui-même. Bon, si vous voulez un exemple avec les insectes, par exemple, on a les barasanas du nord-ouest amazonien, en Colombie, soulignent que, du point de vue des termites, les oiseaux qui vont manger les termites sont leurs jaguars. Donc l'humain ne va plus voir l'animal comme il le voit d'ordinaire, mais tel que celui-ci se voit lui-même, donc c'est-à-dire en homme, en humain. Donc cette capacité de métamorphose va trouver son expression dans les échanges permanents d'apparence, où les esprits des morts prennent forme animale et les humains se retrouvent, par inadvertance, transformés en animaux. Ou lorsque, par exemple, qu'un animal incorpore aussi la forme d'un autre animal. Donc on ne sait jamais vraiment ce qu'on a, finalement, quand, derrière un animal chassé. D'où la nécessité de, on pourra en parler, mais de désubjectiviser l'animal au moment de le consommer. Savie Virose de Castro en parle très bien. Donc cet animisme fonctionne d'abord par analogie avec les hommes. Alors, les exemples où les Amérindiens identifient les noms humains, insectes ou autres à leur image sont innombrables. Le statut du maître des animaux, qui est très commun en Amazonie, en est un. Par exemple, la fourmi du genre Azteca est pour les Indiens du Bajo Urubamba, au Pérou, la mère de l'arbre, d'un arbre, Cecropia, dans lequel ils habitent. Pareil, on retrouve par exemple l'association faite par les Shipibo entre le niveau lumineux de l'arbre et le ventre d'une femme, d'un nid d'abeilles et le ventre d'une femme enceinte. Mais ce qui est intéressant, c'est souvent moins le côté organisation que le côté guerrier que retiennent les Amazoniens, notamment l'organe reproducteur, mais également l'arme de guerre, l'aiguillon par exemple des fourmis ou des guêpes, est surtout indispensable aux transformations des formes immatures en adultes guerriers. Alors, si l'aspect, par exemple, de l'aiguillon peut être associé à des armes, à des caractères morphologiques, mais c'est surtout associé à ces caractères extérieurs, la toxicité, souvent réelle, du venin des insectes, qui est crainte et recherchée dans ces cérémonies. L'aspect le plus important de cet animisme amazonien concerne en effet la circulation des substances à l'intérieur des corps. Si les hommes et les insectes se distinguent par leur apparence, le monde est composé d'une même substance conçue comme une énergie, en fait, une force vitale. Voilà, c'est une logique qui est assez répandue dans les cosmologies amazoniennes, qui sont nombreuses à voir en fait l'univers comme un gigantesque circuit dans lequel la circulation des substances et des identités permet de maintenir la continuité de l'ordre social. Et cette énergie, elle est particularisée par les corps des insectes, mais elle est surtout associée, enfin au niveau morphologique, mais elle est surtout associée chez les insectes au venin, qui est la véritable nature prédatrice des insectes. Alors c'est ce que montrent les cérémonies organisées par les Wayana. Donc en Amazonie, le corps humain, il peut être vu comme le recyclage, le lieu des recyclages, des énergies, et l'épicure des insectes comme des vecteurs essentiels de ces énergies. Donc ces douloureuses cérémonies d'initiation avec les insectes apparaissent alors souligner moins le courage et l'endurance indispensables que le renouvellement des dispositions naturelles, de l'énergie vitale de chacun des membres du groupe. C'est ce que disent très bien les Wayana quand ils disent vouloir gagner la force des fourmis quand ils se sentent fatigués, mais aussi à différentes étapes de leur vie. Pour conclure, alors en Amazonie, les relations... je suis désolé, après le repas, c'est peut-être pas terrible... En Amazonie, les relations aux insectes, donc là on est vraiment dans la purification, hein, c'est vraiment de vomir pour extraire, donc on boit beaucoup pour extraire ce qu'on a ingurgité précédemment. Donc en Amazonie, les relations aux insectes sont anciennes et dans ces cosmologies amazoniennes, les mondes apparaissent enchevêtrés. Les limites sont posées, même si elles nous apparaissent, enfin à nous occidentaux, pas toujours très claires. Dans notre enquête sur les sauterelles, les réflexions des habitants sur la présence des sauterelles témoignent d'incertitudes sur la nature réelle, comme sur leur relation avec le milieu dans lequel elles évoluent. Alors, cette association d'espèces notables à un environnement physique identifié, familier, que sont ces collines, va renvoyer leur apparition à des questions plus larges, et c'est ce qui m'a intéressé, que celle de leur mode de présence, et attester de bouleversements environnementaux constatés et de l'évolution d'un cadre de vie donc des hommes, qui est partagé avec les insectes. Donc ces relations, elles se lisent dans une histoire locale de l'environnement, donc pour les sauterelles, hein, qui ne s'arrêtent pas aux relations écologiques, mais qui s'étend via l'économie de marché aux transformations de l'homme sur les milieux. Dans les discours, enfin dans ce que les gens me disent, les relations des hommes aux sauterelles apparaissent inséparables des relations d'exploitation de l'homme sur son environnement. En gros, enfin, périodiquement, donc pendant ces pullulations, les sauterelles vont émerger en grand nombre, elles vont se déplacer en quête de nourriture, et vont rencontrer inévitablement les hommes dans leur occupation. Et les personnes que j'ai, notamment les anciens que j'ai interrogés, me disent finalement que enfin, ils me renvoient à des causes anthropiques directes, récentes comme anciennes, ils me disent que c'est un peu de notre faute. En cultivant la vigne dans les collines, en construisant des résidences secondaires dans les collines, les hommes se sont rapprochés des sauterelles, de leur territoire, et en subissent davantage les nuisances. En gros, donc, au fur et à mesure qu'il assoit son emprise et foncière agricole, l'homme se rapproche des insectes et leur intérêt et leur chemin se croisent de manière inéluctable. Donc aujourd'hui, enfin plus qu'hier, parce qu'homme et insectes partagent les mêmes territoires. Les hommes et les insectes vivant et interagissant entre eux, les penser, les traiter comme utiles ou nuisibles n'apparaît vraiment plus comme la meilleure réponse. Et comme l'Anthropocène, donc, est marqué par l'empreinte de l'espèce humaine, considérer les insectes comme leur seule perspective utilitariste ou naturaliste ne fait que renforcer leur destruction et celle du milieu. Et je terminerai juste par 3, je sais que j'ai un peu dépassé. Et la question « Que faire alors ?» qui est aussi une des demandes. Alors, j'ai pas de solution radicale, mais à la suite des réflexions de ceux qui vivent avec et par les insectes, une première étape serait déjà de reconnaître les caractères dynamiques et interdépendants des socio-écosystèmes, et finalement de prendre les insectes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des organismes dont l'existence est, comme espèce est conditionnée et est conditionnée par celle des autres au sein d'écosystèmes complexes. Alors c'est ce qu'ont bien compris les populations autochtones qui vivent en forêt depuis longtemps. Mais pour ce qui nous concerne, nous, il s'agira d'abord de dépasser les lieux communs des représentations au sujet de leur caractère nuisible, ou même utile d'ailleurs, pour adopter un point de vue plus systémique, on va dire, sur nos relations avec eux. Donc ça serait à faire une part plus grande, plus large, et d'accepter... À la coexistence finalement avec les insectes. Je m'arrêterai ici.
Merci Nicolas.